Bon, on a une nouvelle de dernière minute. C'est notre collègue Louis Lacroix, qui est le chef du bureau politique de COGECO à l'Assemblée nationale, qui est en ligne avec nous. T'as appris que le ministre Simon Jolin Barrette s'est fait voler des documents.
Oui, exactement. Le ministre de l'Immigration, hier soir, était à son bureau du complexe G à Québec, sur la colline parlementaire. Et puis, à un moment donné, le garde du corps du ministre est descendu dans le stationnement où était stationnée la limousine de fonction de Simon-Jolin Barrette et s'est rendu compte que une fenêtre de la voiture avait été brisée. Et à l'intérieur de la voiture, il y avait une mallette qui contenait des documents de travail du ministre, également des effets personnels. Et ça a été volé hier soir par un individu qui était dans le stationnement. Immédiatement, le garde du corps a lancé le protocole, c'est-à-dire qu'on appelle la Sûreté du Québec parce que ça concerne un ministre. Et là, ben la Sûreté du Québec est intervenue dans le stationnement. On a finalement réussi à arrêter l'individu en question qui était caché au loin là dans le stationnement du complexe G. On a récupérer les documents. Mais ça soulève toute la question, à savoir comment ça se fait que le ministre avait des documents en sa possession, en fait, dans la voiture de fonction, et qu'une personne a pu défoncer la limousine et s'emparer de ces documents-là hier soir.
Bon, ça veut dire qu'on a arrêté le gars, puis au moins les documents ont été récupérés.
Les documents ont été récupérés, mais ça soulève une question de sécurité en termes de confidentialité des documents.
Merci beaucoup, Louis. Louis Lacroix, en direct de Québec. Bon, on a vu hier la comparution de Samuel Tremblay, qui a 19 ans. Il a plaidé non coupable à une série d'accusations, dont notamment conduite dangereuse. C'est lui qui était au volant de ce véhicule qui fonçait sur René Lévesque, tout près de Saint-Denis, qui aurait pu donc frapper des piétons. Et il y a eu cette intervention de ce citoyen qui lui a bloqué la route, donc qui a fait en sorte qu'il n'y ait pas eu d'autres... qu'il n'y ait pas eu de victimes tout court. La mère de Samuel Tremblay est avec nous ce matin, Mme Ananda Tremblay. Mme Tremblay, bonjour.
Bonjour.
Parlez-moi de votre fils. Bon, il se retrouve devant la justice. C'est pas la première fois. Il y a beaucoup de problèmes, votre fils.
Oui, oui.
Qu'est-ce qu'il y a comme problème?
Il y a beaucoup de problèmes de santé mentale depuis très longtemps. Il a été suivi pendant plusieurs années en pédopsychiatrie quand il était mineur. Là, depuis l'âge de 18 ans, c'est des entrées et sorties de prison, mais sans aucun suivi psychiatrique depuis l'âge de 18 ans.
Quand vous dites des problèmes de santé mentale, là, quel type de problème?
Écoutez, je ne veux pas m'avancer nécessairement sur les diagnostics, parce que les diagnostics mineurs et majeurs, ça peut être très différent. Comme là, il n'a jamais revu de psychiatre depuis qu'il a l'âge de 18 ans. Il en a vu de l'âge de 3 ans à 18 ans, mais depuis l'âge de 18 ans, il est comme laissé un peu à lui-même, en fait, à cause de ses entrées, ses sorties de prison. Moi, ça fait plusieurs fois, je suis allée à la cour en 2018 aussi pour une autre accusation du même type.
Conduite dangereuse.
Conduite dangereuse qui a présentement délit de fuite. J'ai parlé à la cour, j'ai demandé, j'ai expliqué la situation des problématiques de santé mentale. Ils l'ont rentré en prison pendant 9 mois. Ils l'ont ressorti avec un petit sac brun. Pas de médication, pas rien.
Mais lui, est-ce qu'il veut se faire traiter? Est-ce qu'il veut se faire... suivre par un médecin?
Écoutez, c'est un peu complexe, je pense, des fois, quand on a des problèmes de santé mentale.
Peut-être qu'il ne le reconnaît pas, peut-être qu'il ne veut pas.
Il sait jusqu'à un certain point, mais des fois, jusqu'à un certain point, quand on a des problèmes de santé mentale, notre tête, elle tourne tellement qu'on a de la difficulté à s'arrêter pour réfléchir, pour dire « là, c'est le temps que j'aille me faire aider ». Donc, je pense que ça, c'est très difficile à ce niveau-là. Moi, mon point, c'est que ça fait plusieurs fois que j'en parle, que je le dis.
Vous souhaitez l'envoyer, par exemple, à Pinel?
Bien, moi, je souhaite qu'il ait l'aide adéquate, pas qu'on le mette en prison, dans une unité, ou bon, on appellera ça comme on veut, et qu'on le ressorte quelques mois plus tard avec son sac. Parce que là, ça fait 3 fois que c'est ça qui arrive. Il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de suivi, il y a besoin de soins spécifiques. Ça fait des années aussi qu'on le dit, même quand il était mineur, il avait besoin de soins spécifiques.
Dans le fond, ce que vous me dites aussi, là, c'est que s'il est condamné après ça, puis qu'on le retourne dans une prison avec 100 services... particulier, là, spécialisé pour lui. Oui. Il va ressortir de prison un jour, puis il risque de recommencer.
Oui, puis on va attendre qu'il tue quelqu'un avant de dire « Ah, ben là, il y a des problèmes, on va l'aider. » Ce qui est arrivé hier, s'il n'y avait pas eu quelqu'un pour sauver les piétons, pour bloquer les piétons, soit qu'ils auraient gravement blessé ou ils auraient tué. Donc là, on va attendre la prochaine fois encore qu'il arrive quelque chose de grave. C'est ça. Puis c'est pour mon fils, puis c'est pour plein d'autres gens. Je pense que le système de santé au niveau de la santé mentale délaisse beaucoup de monde, surtout après l'âge de 18 ans. Je pense que c'est une grosse problématique au Québec.
Puis vous me dites que c'est pas la première fois là, qu'il fait face à des accusations de conduite dangereuse.
Non.
Pourquoi il conduit comme ça?
Savez-vous? C'est ses problèmes de santé mentale. Il fait des fixations sur certaines choses. Il a pas conscience du danger. Comme il y a deux jours, je suis convaincue qu'il n'a pas eu conscience
de ce qu'il faisait.
Qu'il aurait pu tuer quelqu'un. Il est capable de vous décrire l'histoire de qu'est-ce qui s'est passé, mais logiquement, il y a un état d'esprit qui n'est pas stable pour en arriver à foncer dans des piétons.
Quand il n'est pas en prison, est-ce qu'il vit avec vous?
Il vit à droite à gauche. Il n'y a pas nécessairement d'endroit fixe où il vit.
Est-ce qu'il vous fait peur?
Oui. Oui. Oui, ce qui est arrivé, ça me fait très peur, oui. Donc, oui. Je crois sincèrement qu'il a besoin d'aide. Et puis, si l'on fait juste le remettre en prison, ça va se reproduire.
OK. Merci beaucoup d'être venue ce matin, Mme Tremblay. Ananda Tremblay, qui est la mère de Samuel, qui a 19 ans et qui, je le rappelle, a plaidé non coupable hier à 7 chefs d'accusation. Il y en a plusieurs, comme vous le voyez, notamment de conduite dangereuse. Hier, le gouvernement du Québec a annoncé l'entrée en vigueur de son règlement concernant Airbnb. Et ça va se passer au printemps prochain, donc à partir du 1er mai, les propriétaires qui désirent louer leur résidence principale pourront le faire à condition d'obtenir un numéro d'enregistrement. Il y a un paquet de règles qui vont donc s'appliquer. J'en parle avec la ministre du Tourisme, Caroline Proulx. Caroline Proulx, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
D'abord, là, ça veut dire que si je veux sous-louer ou louer carrément, ça va me prendre un permis, pas un permis, mais un numéro officiel.
Oui, pour votre résidence principale, parce que c'est ça qu'on est venu définir en juin dernier, la résidence principale, ça n'avait pas été défini préalablement. Numéro d'enregistrement que vous allez trouver sur le site de la CITQ, Corporation de l'industrie touristique du Québec. Votre numéro d'enregistrement, à chaque fois que vous louez votre résidence principale, vous devrez afficher le numéro d'enregistrement.
OK. Si je suis propriétaire, mettons, d'un condo, il faut que je m'assure que j'ai le droit de le faire dans mon immeuble. Si je suis locataire, il faut que je m'assure que mon propriétaire est d'accord avec ça.
Exactement. Si c'est écrit au bail, si c'est écrit au syndicat de copropriété qu'on vous donne l'autorisation de faire de l'hébergement touristique collaboratif avec votre résidence principale, vous avez le droit de le faire. Vous allez chercher le numéro d'enregistrement et vous pouvez louer votre résidence principale.
OK. Ça veut dire que les gens vont donc percevoir une taxe aussi et la remettre au gouvernement, là?
En fait, on parle de l'hébergement collaboratif de type Airbnb. Vous prenez votre résidence principale, vous l'affichez sur Airbnb. Donc, quand on va afficher avec votre numéro d'enregistrement, M. Arcand, on va prélever évidemment la TVQ, la taxe de vente du Québec, et on va prélever également la taxe sur l'hébergement de 3,5% que les hôteliers, eux, prélèvent déjà. Donc, il y avait une inéquité à l'époque. Donc, c'est les mêmes règles pour tout le monde avec votre résidence principale sur une plateforme d'hébergement touristique collaboratif. Le 3,5% va être également prélevé. Donc, équité pour tout le monde.
OK. Est-ce que légalement, je peux louer, mettons, mon condo 50 jours par année, 150 jours par année? Y a-t-il des limites?
Non, il n'y a pas de limite. On a décidé de laisser la liberté aux gens qui veulent louer leur résidence principale. Mais comme je vous le dis, il va falloir que votre syndicat de copropriété autorise votre résidence principale à être sur une plateforme d'hébergement touristique.
Là, ce que je comprends, là, c'est que les bordels, comme on a vu dans les tours du Canadien, ça va reprendre ou ça va continuer, là, parce que c'est...
Oui,
un peu quand même. Si c'est autorisé, il y a des villes dans le monde où on limitait le nombre de jours un peu justement parce qu'on voulait que ça ne soit pas un va-et-vient perpétuel dans certains immeubles. Là, il y a des gens qui vont pouvoir le faire pratiquement à temps plein.
Ben absolument pas, c'est le contraire en fait. Puis c'est la première province au Québec qui arrive avec un projet de règlement. Je vous donne un exemple, là, vous avez un duplex que vous décidez de tourner en hôtel, ce ne sera pas permis parce que vous allez être dans un secteur résidentiel. La fameuse tour à laquelle vous faites référence, là, c'est un secteur résidentiel. Fait que le commercial ne sera pas permis. La ville de Montréal l'autorisera pas.
Non, mais attendez, je comprends là. Mais dites-moi, si j'ai un condo et que c'est permis dans mon immeuble à condo, je peux louer 365 jours par année à 365 personnes différentes si je veux.
Ben, c'est votre résidence principale, Monsieur Arcan, en principe, votre résidence principale, c'est là que votre activité familiale se passe. Vous ne louerez pas 365 jours par année. C'est la résidence principale.
Si j'ai acheté un condo et que je l'habite deux mois par année, est-ce que ça vous considérez ça comme ma résidence principale ou pas?
Ben, moi, c'est votre résidence principale, celle que vous donnez à Revenu Québec, les transactions que vous avez avec la SAC, par exemple. C'est votre résidence.
OK. Bon, vous posez ma question autrement. Est-ce qu'un investisseur chinois qui achète un condo dans le tour du Canadien peut louer avec vos règlements son condo Airbnb?
Ben écoutez, il va falloir que le syndicat le permette.
Mais c'est pas sa résidence principale. C'est pas sa résidence principale. Il vit pas là. Il a acheté un condo puis il décide de mettre ça Airbnb.
Ben, il va falloir jour 1, le règlement reste le même. Il devient commercial. Donc, ça prend le fameux panonceau étoilé. Il faut qu'il aille le numéro d'enregistrement de la SCITQ. Il devient commercial. Il est commercial. S'il ne l'habite pas, il l'achète, il ne l'habite pas, il devient commercial. Il est commercial. Fait que ça prend l'autorisation de la CITQ, ça prend le panonceau étoilé, ça prend une visite des gens de la Corporation de l'industrie touristique du Québec. C'est très réglementé, là. Il devient commercial comme un hôtel, dans le fond, M. Arcan, là. C'est réglementé.
OK. Comment vous allez monitorer les activités sur Facebook, sur des applications comme Airbnb ou autres?
Pour la résidence principale, c'est pour ça qu'on l'a défini. On est en lien avec Revenu Québec. Donc, tous vos documents légaux rentrent à votre résidence principale. Vous avez votre numéro d'enregistrement, résidence principale, le lien qui va se faire avec Revenu Québec. Là, Revenu Québec va regarder. Hey, c'est pas son adresse de résidence principale, ça. C'est pas celle-là qu'on a au dossier. Donc, Revenu Québec va envoyer un enquêteur, va dire non, 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 c'est pas votre résidence principale, vous n'avez pas le droit de la louer.
OK,
c'est
mais
votre
ceux qui.
Secondaire, vous êtes commercial.
OK, mais ce que je veux dire, c'est que vous allez suivre les locations, les offres, en fait, sur les.
Ah oui.
Parce qu'il y a des gens qui ne demanderont pas de numéro, là, qui ne veulent pas percevoir ça, puis qui vont faire ça en dessous de la table.
Oui, mais il y en aura toujours qui vont vouloir
c'est
faire
vrai.
Ça en dessous de la table. Vous le savez autant. Moi, là, le taux de conformité à 100%, là, on va être franc.
Mais c'est quoi les amendes? C'est quoi les sanctions?
Ah, c'est très, très cher. On peut aller jusqu'à 50 000 $. 50 000 $. On peut donner des constats d'infraction qui vont aller jusqu'à 50 000 $. La première infraction de mémoire, on est à 5 000, là. La troisième, on monte à 50 000. Ça commence à être sérieusement dissuasif.
Merci beaucoup, Caroline Proulx, qui est ministre du Tourisme.